Jérôme Colombin, bonjour.
Salut Bruno Guglielminetti.
Dis donc, Jérôme, de ta lointaine Europe, t'as quand même suivi ce qui se passe aux États-Unis cette semaine avec l'histoire de TikTok et de ce projet de loi qui est passé du côté de la Chambre des représentants.
Mais ça n'en finit pas. C'est dingue ce qui
puis
se passe
fou,
sur ton continent.
Ben oui, puis c'est fou parce que ça a commencé en juillet 2020.
Ouais.
Avec un arrêt exécutif de Donald Trump qui mettait les feux sur TikTok. Et puis, ben, finalement, on commence à voir un dénouement de cette histoire-là, sauf que c'est pas fait.
Oui, oui, mais c'est assez dingue. Mais moi, j'en parlais effectivement dans mon podcast cette semaine dans l'actu, parce que c'est quand même un gros sujet d'actualité. Mais c'est vrai que si on essaye de décortiquer, de voir un peu ce qui se cage derrière tout ça. Moi, ça m'inspire plusieurs réflexions, si tu veux. D'abord, je trouve qu'il y a, si on prend beaucoup de recul, c'est assez paradoxal parce que tu
c'est
t'imagines.
C'est quoi, ça, c'est 2 mètres, ça?
C'est plus que 2 mètres, c'est plutôt 2000 kilomètres, je dirais. Non, mais TikTok, regarde, c'est quasiment l'application la plus populaire du monde aujourd'hui. Presque populaire au sens utilisé par des tas de gens.
Ah oui, hein, des grandes marques, ouais.
Des marques, des influenceurs, Joe Biden qui d'un côté dit c'est sale et puis en même temps il y va. Il vient de commencer à publier des trucs sur TikTok et on essaye de la museler. Donc c'est une espèce de... Alors je ne porte pas de jugement en disant ça, hein, c'est juste, c'est le paradoxe et l'image que je trouve étonnante. Mais au-delà de ça, et après tu me diras ce que tu en penses toi, mais ce que je trouve c'est que déjà on comprend plus ce qu'on lui reproche à TikTok, moi je trouve, vu d'Europe. Ben oui, c'est quoi le problème pour les Américains? C'est l'espionnage supposé de TikTok, c'est les problèmes d'addiction, les problèmes d'influenceurs foireux, etc. Ou bien c'est juste un prétexte pour faire un sale coup à la Chine dans le cadre d'un bras de fer géopolitique. Franchement, c'est pas clair, hein.
Ouais, ben c'est un heureux mélange de tout ça, puis t'as raison de le ramener, mais c'est aussi, et ça je trouve ça un peu hypocrite de la part des Américains, mais bon, c'est pas la première fois qu'ils agissent comme ça, c'est de blâmer la direction, et je suis pas pro-TikTok, là, c'est pas ça, mais c'est de blâmer TikTok pour un mal qui est aussi existant sur leur plateforme.
Ah,
à
ben
eux.
Absolument.
Quand on parle de la désinformation, la propagande, du petit côté, ben, TikTok, c'est peut-être un petit peu plus pro-russe, pro-Israël. Je m'excuse, mais il y a des plateformes américaines où on retrouve le même genre de désinformation. Alors, de pointer le voisin en disant, oui, mais vous avez un gros problème. Oui, mais je m'excuse. Meta, toutes les plateformes ont ce problème-là. X, c'est pire. Alors, à un moment donné, tu sais, il faut se calmer. Il y a peut-être Snapchat qui passe à côté, heureusement pour eux. Mais donc, on reproche des choses à TikTok qu'on n'arrive même pas à régler de notre côté.
Entièrement d'accord avec toi. Et dernière chose aussi, quand même, alors malgré tout, hein, sur le problème aussi que les Américains reprochent à TikTok, c'est le lien avec le gouvernement chinois. TikTok dit, mais pas du tout, regardez, ByteDance est totalement autonome, sauf que là, les Chinois, ils viennent de se faire avoir. C'est le gouvernement chinois qui commence à protester. Mais de quoi je me mêle s'ils n'ont rien à voir dans TikTok?
D'autant plus que les applications américaines, elles sont interdites en Chine. Meta fonctionne pas en Chine. X fonctionne pas au grand mal de Musk. Donc toutes les applications américaines, elles sont censurées en Chine. Et là, les Américains veulent faire la même chose. Et là, ils jouent à...
Voilà, les Chinois disent c'est pas bien, mais enfin les Chinois ils se sont livrés pieds et poings liés parce que c'est un aveu de faiblesse, c'est une reconnaissance du fait qu'en fait ils contrôlent un peu TikTok, quoi.
Ben, bon. Puis de toute façon, faut pas être naïf, tu le sais comme moi, tout service chinois qui est en ligne, il y a toujours une porte dérobée derrière pour s'assurer, et ça c'est à la demande du gouvernement chinois, que le service de renseignement, pour des raisons de sécurité interne, puisse accéder aux données ou à autre matériel qui circule sur le réseau.
Ouais,
donc, à un moment donné, il ne faut pas être naïf.
Il ne faut pas être naïf, mais il ne faut pas être naïf du tout, Bruno. Il y a aussi des portes dérobées dans les outils américains. Hein.
Non!
Mais bien sûr que si. Et il y a même parfois des choses encore plus... c'est encore plus ouvert. Il y a des lois. Il y a les lois extra-américaines. Tu sais qu'il y a une loi...
Es-tu en train de parler du Patriot Act?
Ben oui, exactement. Le Patriot Act, le Cloud Act, etc., qui fait qu'ils peuvent venir fouiller dans des data centers y compris qui se trouveraient chez nous en Europe, simplement parce que ça appartient à des boîtes américaines. Enfin, bref.
Mais tu sais que j'en ai une bonne pour toi. Tu te souviens toujours quand même, tu as un bon souvenir du BlackBerry?
Oh bah oui, bien sûr. Petite nostalgie.
Mais tout le monde ne jurait que BlackBerry à cause de sa messagerie privée qui semblait être impénétrable. Sauf qu'à la fin de sa vie du système BlackBerry, ça, c'était assez intéressant. Moi, j'avais découvert en parlant avec des gens du renseignement canadien qu'ils avaient un problème avec le BlackBerry parce que c'était géré par des serveurs et ils avaient fait des accords avec certains gouvernements qui sont plus ou moins recommandables en disant, écoutez, en échange de pouvoir installer des serveurs sur votre territoire, on vous donne une clé pour accéder aux discussions sur votre territoire. Imagine-toi. Ben, heureusement, bon, BlackBerry a fermé les portes officiellement avec son service de messagerie avant que l'histoire s'évente, là, mais.
C'était une autre époque, mais ça arriverait aujourd'hui, ça fera un scandale, cette histoire-là.
Ah, tout à fait.
Ouais.
Ben bon.
Bon, enfin, voilà.
C'est de la vieille histoire.
De TikTok à BlackBerry. Étonnant.
On l'a fait.
Ouais.
Mais Jérôme, il n'y a pas que ça dans l'actualité. De votre côté, ça a quand même bougé de façon importante. Il y a le président qui a reçu des recommandations pour l'utilisation de l'intelligence artificielle sur votre territoire.
Ah oui, tu sais que nous, on n'a pas d'intelligence artificielle, mais on a des rapports.
Ouais.
On a des règlements
et on sait encadrer
et on sait faire des rapports et des commissions, c'est sûr. Oui, non, je suis un peu taquin. Bah, c'est vrai que on se dit quand même, ça allait un rapport de plus sur l'intelligence artificielle parce que c'est pas le premier. Hein, il y en a déjà eu. Il y avait eu le rapport Villani il y a quelques années, en 2018, je crois, etc. Bon, mais non, pourquoi pas. C'est vrai qu'il s'est passé des choses, ça a beaucoup évolué. Maintenant, c'est les IA génératives, donc c'est un peu panique à bord. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bon, écoute, c'est des choses intéressantes dans ce rapport, voilà, 25 propositions faites au gouvernement, il faut développer. En gros, moi, ce que je retiens, c'est un peu l'idée, c'est il faut développer, il faut faire aimer l'intelligence artificielle en France. Alors, il y a des questions d'argent, hein, on parle de débloquer 5 milliards par an, etc., d'utiliser l'IA dans l'enseignement, ça, je trouve ça intéressant, pour y compris pour aider à créer des cours et des parcours personnalisée d'éducation. Et puis, il y a une idée un peu étrange de gouvernance internationale de l'intelligence artificielle. C'est une proposition. Je ne sais pas trop ce qu'il en ressortira. Bon, c'est un rapport, ce sont des propositions. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement va vraiment faire de tout ça? Eh bien, écoute, c'est l'éternelle question. Hein.
Mais je trouve ça intéressant que tu le présentes comme ça, parce que chez nous, ici au Québec, en février, il y a eu le Conseil de l'innovation qui est chapeauté par Luc Sirois, un ancien collaborateur de mon carnet, qui a présenté 12 recommandations qui, justement, je regardais le rapport qui avait été remis à Macron cette semaine. Écoute, tout le monde s'en va dans le même sens.
Bien sûr.
Il faut prendre le virage, il faut que les étudiants suivent, il faut que les industries adoptent quelque chose là-dedans, il faut que le gouvernement aussi prenne le virage.
Il faut tenir le coup face aux Américains, etc.
Exactement. Ouais. Puis il y a aussi le volet, mais ça, il est poussé par le rapport, mais j'ai pas senti le gouvernement québécois embarquer, je sais pas si le gouvernement canadien va embarquer, c'est la notion de souveraineté dans l'IA. Et ça, j'avoue que moi, ça m'interpelle beaucoup.
Ouais, absolument. Il y a aussi une autre chose. Moi, quelquefois, on me pose la question, est-ce que la France et l'Europe ont encore leur chance ou on va encore rater le train comme d'habitude? Et on dira, ah ouais, c'est super, on avait tout inventé, mais en fait, c'est les Américains qui l'ont fait. Non, mais je pense qu'on en est au même plan, même, on va avoir les mêmes problèmes. C'est-à-dire que, oui, nous, on a des ingénieurs super forts chez nous, on a des écoles formidables, des formations de dingue. Ils sont excellents. D'ailleurs, il y en a plein qui vont bosser dans des boîtes américaines après.
Mais
il y a un truc qui nous manque. Et là, je suis désolé, je suis assez pessimiste. Je vois pas comment on pourra régler le problème. C'est le pognon. C'est tout. C'est que les Américains sont à une échelle d'investissement financier qui est inaccessible pour nous, Européens et Français. Et donc.
Et l'exception, ça sera quoi? Ça sera la Mistral?
Mais alors, Mistral ou d'autres, Mistral qui vient de passer plus ou moins sous la coupe de Microsoft, hein, entre guillemets, voilà. Non.
Je voulais t'entendre le dire.
Ouais, évidemment. Non, mais en revanche, il va peut-être mais je crois que l'une des cartes réponses, ça pourrait être l'open source. C'est-à-dire que les Américains, ils ont investi des milliards pour développer des solutions propriétaires. C'est bien, ils ont ouvert la voie, ils ont créé OpenAI, etc. et tout. Maintenant, on est presque déjà à la deuxième étape qui est, on arrive à faire des modèles plus légers et qui en plus sont en open source, donc accessibles à plus de monde mine de rien. C'est une autre manière d'asseoir une forme de je ne vais pas dire de domination, mais ça peut être une autre manière de vraiment d'avoir de l'influence à ce niveau-là.
Et là, tu ouvres la porte pour qu'on parle de Croc avec Musk qui a décidé de le lancer dans l'open source. Mais on va pas là.
On va pas en parler parce que.
Non, on va pas là.
On va faire 20 minutes.
Non, non, tu fais exprès, là. Sinon, Jérôme, de quoi tu nous parles cette semaine?
Eh bien, cette semaine, juste après notre débrief, je vais m'intéresser encore à l'intelligence artificielle sous un angle très concret. Je suis allé rencontrer une entreprise dans l'est de la France qui utilise précisément les modèles OpenAI, Mistral, etc., mais pour faire des solutions qui sont vendues aux entreprises, et notamment un truc qui marche super bien, qui est un système qui fait des comptes rendus de réunions ou de conventions, etc., et qui arrive aujourd'hui à vraiment à te synthétiser une réunion de manière super intelligente. Et puis sinon, je parle également de télécom avec un rendez-vous en partenariat avec l'opérateur Orange, qui est associé à Monde Numérique et qui on parle de la plateformisation des réseaux télécom. Les réseaux aujourd'hui, c'est plus seulement des tuyaux et c'est plus des tuyaux en cuivre et des choses comme ça. C'est de l'informatique, c'est du cloud, donc les réseaux sont super intelligents.
Hey Jérôme, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine.
Merci à
on
toi.
On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, avec grand plaisir, mon cher Bruno. Passe une très bonne semaine.
Salut.
Ciao, ciao.